الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقهوش عشرة سنين تدمر عشرة ويلو مازل مش بعتوش وبربي هاد المرة ويلو ناضي ما تفوتوش
حبيبي ليبيري لالجيري
بلادي بكا وكدموع ميساج قاع المسؤوليني ونا مارك رانا منكم هادو عشرين وحنا صابين
يا تزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمي انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر
Radio Galère 88.4, il est 18h06, l'actualité algérienne de 18h jusqu'à 20h, donc de ce vendredi 27 janvier 2023, une nouvelle année qui commence en Algérie sur des chapeaux de roue, on va dire. Hein, donc, c'est. Donc, les choses commencent de cette façon, voilà. Alors, aujourd'hui, il est un peu spécial, là, donc notre émission va se dérouler une première partie de manière habituelle jusqu'à 19h15. Et de 19h15 à 20h, on aura ce qu'on appelle une partie culturelle à l'occasion du nouvel an amazigh, là. Donc, il va y avoir une invitée de marque, hein, on va dire, une chanteuse, donc Kabyle, qui sera là avec nous par téléphone, puisque Yasmina, c'est d'elle qu'il s'agit. Donc Yasmina chantera ce dimanche-là, se produira ce dimanche, à partir de 16h30 à l'espace Julien, là, donc à la plaine. Là. Donc on l'aura au téléphone, on aura l'occasion pour les auditeurs de Galère de faire sa connaissance. Alors vous pouvez nous appeler donc au 04 91 08 28 10, et un rendez-vous, donc toujours le même, le rendez-vous à 14h, hein. Même s'il fait froid, on a besoin d'être là-bas, hein, tous les dimanches, ce dimanche-là, donc de 4, donc ce dimanche c'est 28, ah pardon, c'est dimanche 29, pardon, dimanche 29 à partir de 14h au Vieux-Port, n'oubliez pas, voilà, et le Hirak doit continuer. Alors avec nous, Mohamed vient d'arriver, là, et bien sûr... Saïd va nous rejoindre normalement, Monsieur Mohamed, un deuxième Mohamed, et bien sûr, on aura Rachid qui sera à l'honneur avec nous. S'il a envie de dire des choses, il pourra parler, bien entendu. Voilà. Alors, je vous propose donc un cadre général, hein, un cadre général de discussion, là, si vous voulez, sur la base d'infos, là. Un cadre général. On verra cette affaire-là. J'arrête la politique par la force des choses. C'est M. Rachid Nikez. On va le passer, si vous voulez bien. Il n'y a pas de problème. On va le passer cette vidéo-là, peut-être après, hein, donc il n'y a aucun problème. Le cadre général est le suivant, c'est qu'on est en train de mettre de manière tout à fait méthodique, là, les autorités, le pouvoir en Algérie, est en train de mettre donc, de manière méthodique et de façon cadencée un retour vers l'avant octobre 88. Vers l'avant 88. C'est-à-dire qu'il y a une période 88 jusqu'à 2000, on va dire 2000, jusqu'à maintenant, quoi, jusqu'au Hirak. Les choses allaient Kaïn Kaya, il y avait une période un peu difficile, la période, ce qu'on appelle la période de la décennie noire. Il y a une période d'avant 88 où les gens luttaient d'une certaine façon, mais il y avait quand même, on peut le dire sans peut-être se tromper, il y avait une certaine, surtout avant 86, il y avait une certaine aisance sociale, on va dire, sur le plan social. Il y avait quand même l'Algérien arrivé à joindre les deux bouts. Là, on est en train d'essayer, mais sur le plan démocratique, sur le plan des libertés, c'est la chape de plomb, on va dire, même si à l'intérieur de ce qu'on appelle le régime, les choses pouvaient se faire d'une certaine façon, sans trop aller loin, mais on peut demander des choses, on peut se bagarrer au sens politique du terme, mais bon. Mais il y avait des limites à tout. Maintenant, bon, après octobre 88 et le drame qui a eu lieu en octobre 88, le régime était obligé de lâcher du lest d'une certaine façon. Et ces acquis-là d'octobre 88, entre octobre 88 et début des années 90, ces acquis-là qui ont été arrachés de hautes luttes et avec des sacrifices énormes, ce sont ces acquis-là, la pluralité linguistique, la pluralité syndicale, même si c'est une pluralité de façade, la pluralité politique, celle-là est en train d'être remise en cause de manière catégorique. Et on, c'est un peu, on vit dans ce cadre-là, hein. on est dans cette situation-là, et je crois que c'est un peu le comment dire, c'est un peu notre pain quotidien actuellement, et petit à petit, par petites touches, des fois de manière vraiment violente, des fois un peu en catimini surtout, en catimini, parce qu'il ne faut pas se faire prendre. On apprend par inadvertance ceci ou cela. Et donc, peut-être qu'avant l'échéance de 2024, on aura une sorte de ce qu'on appelle un terrain gazon bien tendu, hein, aucune herbe ne peut passer, pour, bien sûr, organiser une pluralité à leur façon. Et on connaît un peu cette pluralité, ce que c'est. Hein. Et puis, ceux qui continuent encore à dire des choses sont obligés soit de quitter, soit d'aller en prison, quoi. C'est-à-dire soit l'exil, soit la prison, hein, ni plus ni moins. Le chantage avec la Rachid Nikaz n'est pas le seul exemple qu'on a pour le moment pour dire que le tout sécuritaire, la tondeuse à gazon, la mobilisation de tous les moyens sécuritaires et juridiques pour pouvoir casser ce qu'on appelle l'espoir né du Hirak est en train d'être mis en marche sans aucune espèce de gêne ou de d'hésitation, quoi. Voilà. Et tout ça est, comment dire, avec une certaine garniture, le mot m'échappe, il y a le mensonge et hanté qui accompagne tout ça. Voilà un peu comment le cadre. Bon, les exemples, on va les donner, hein. Bon, les exemples sont là. Mais là, ce qu'on peut tirer comme leçon de ce qu'on peut, sur quoi on peut discuter, c'est autour de ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez aborder la chose par vous-même. Après, on s'auto-alimente, il n'y a pas de problème, hein. Et puis, les auditeurs peuvent aussi intervenir au 04 91 08 28 10, hein, bien sûr. Alors, qui se jette à l'eau ?
Les auditeurs, auditrices, bonsoir à nos amis sur le plateau, Mohamed. Voilà, donc, écoute, je n'ai pas tout à fait la même vision que toi. Je vais t'expliquer. Toi, tu disais du changement et tout. Moi, honnêtement, je ne le vois pas comme du changement, parce que finalement, au niveau international, ils leur donnent, ils leur savent ce qu'ils veulent. On avait parlé ici la dernière fois de la fameuse novlangue. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on redéfinit tout ce qui a été déjà défini. On est en train de le redéfinir, mais à la manière de ce que veut le gouvernement. Voilà. C'est-à-dire, multipartisme, OK, mais à condition, c'est que... à condition, c'est que tu sois un lièvre. Voilà. C'est pas dit, mais ça sera comme ça, je veux dire, voilà. Les gens, vous pouvez aller voter, mais c'est moi qui décide à la fin. Voilà. Et comme on avait dit la dernière fois, comme avait dit l'Iranien, c'est-à-dire, tu as le droit de dire ce que tu penses, mais après, tu n'es pas sûr de rester, c'est-à-dire, libre. Tu vois un peu le... Voilà, c'est ce qui s'est passé avec tout le monde. Donc, du coup, il suffit de dire quelque chose, tu diffames. Il suffit de... Tu tombes rapidement dans la diffamation, tu tombes rapidement... Celui, par exemple, qui avait... pas critiqué, mais il avait interpellé le président concernant le Wali, qui avait dit à quelqu'un, dégage, celui qui est le vendeur. Il est condamné à 2 ans de prison. Voilà, parce que, soi-disant, il aurait manqué... enfin, de respect à un dépositaire de l'autorité. Mais il n'a pas, je veux dire, il a juste... Donc du coup, on ne peut plus parler. Mais voilà, donc on autorise, on laisse les gens parler, mais... Voilà. Et après, bien sûr, on met les gens en prison, en attendant le tribunal, il décide. Après, il voit la personne, il lui dit, bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu viens d'où? Tu as quoi? Il vérifie son téléphone. Bon, on va mener une enquête. Allez, ça va durer 4 mois, 5 mois, 6 mois. Les gens sont obligés de faire un grève de la faim pour revenir, pour être jugés. Un an passe, on les envoie un peu partout. Donc, s'ils sont... S'ils se laissent faire, on les laisse dans la même prison, mais sinon on les envoie à distance. Comme ça, on fait souffrir avec eux la famille. Déjà, elle souffre parce qu'il est en prison, mais là, on va souffrir parce qu'en plus, il va faire de la route. Y a des gens qui ont perdu tous les membres de leur famille dans des accidents de la route. Voilà. Donc, c'est la nouvelle conception de la démocratie. Voilà. Et comme ailleurs, tout le monde est un peu occupé par rapport en Europe et tout. Et même ici, ils essayent de redéfinir en quelque sorte, ils essayent un peu de serrer. Donc du coup, est-ce que demain, ils vont dire à l'Algérie, respecte, voilà. Ce qui les arrange, c'est d'avoir une stabilité. Voilà. Ce qui intéresse les Européens, enfin le monde entier, c'est d'avoir des stabilités dans des pays comme ça. Donc quel que soit le gouvernement, l'essentiel pour eux, c'est juste que ça soit stable. Et une fois que c'est stable, c'est-à-dire que les gens ne le cherchent pas, on parle de partenariat, mais il n'y a aucun partenariat. Voilà. C'est-à-dire on utilise l'Algérie comme... on lui prend son énergie et on lui installe des usines de montage. Voilà. Enfin, grosso modo, voilà. Enfin, moi, comment je vois la situation ?
Je pense que de mémoire, on a jamais vécu une situation aussi dramatique en Algérie, hein, je parle bien sûr, aussi dramatique que celle que nous vivons actuellement. Parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'il n'y a pas seulement les libertés qui ne sont pas en bonne santé, il y a aussi le côté social. Moi, j'ai eu des retours d'Algérie de certaines personnes qui vivent là-bas. Ça, c'est infernal. Il y a des familles entières qui n'ont plus à manger, quoi. N'ont plus à manger. C'est la situation, elle est dramatique. Avec les licenciements, avec tout ce qui se passe, les entreprises qui n'arrivent plus à payer leurs salariés. Il y a des gens qui travaillent sans être payés, des mois et des mois, des années et des années, avec des promesses, bien sûr. La situation, elle est dramatique en Algérie. Moi, je crois, quand tu dis que les pays européens cherchent la stabilité, je ne sais pas si ce pouvoir est stable finalement, parce que je te jure que la situation, c'est une cocotte minute, un jour ou l'autre, il suffirait d'une petite étincelle pour que tout s'embrase. Et j'ai peur de ça, parce que tout va mal en Algérie. Les libertés, alors on arrive à un point, même le multipartisme, le RCD, le MDS, tous les partis même, ils se retrouvent en interdiction avec la dissolution de la LAD, la dissolution de... Ils sont en train de la rage, etc. Ils sont en train je ne sais pas s'ils le font de manière intelligente, de manière... Ou bien ils naviguent à vue. Ou bien ils naviguent à vue, ils sont en train de... Mais la situation, elle est vraiment très, très inquiétante en Algérie. Moi, je suis très inquiet parce que la situation, on n'a jamais eu des retours. Parce que tu sais, on est à Marseille, donc il y a des gens qui vont et qui viennent. On a des flux. Et moi, personnellement, je suis dans une association où on a beaucoup de personnes qui reviennent d'Algérie. Ils reviennent catastrophés, les gens. Ils reviennent démoralisés. Ils reviennent et les gens qui me disaient à l'époque, les personnes qui partaient à l'époque, ils me disaient « Ah, ça va, holo, yag ». Cette année, c'est tout à fait le contraire. Ils sont tous revenus démoralisés de l'Algérie. Et je crains le pire. Je crains le pire pour ce pays.
Oui, non, mais de toute façon, il a tout à fait raison. Mais bon, en regardant quand même les télévisions algériennes, je ne sais pas si... Il y a quand même des gens qui te disent... merci, ils disent merci au président, que tout va bien et tout. C'est-à-dire que, grosso modo, à côté, on a une population, parce que quand on dit ça, on se dit, pourquoi les gens à Marseille, donc ils peuvent sortir, ils ne sortent pas, ils ne font rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un... Moi, personnellement, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Algérien? Ou peut-être qu'est-ce qui se passe dans ma tête aussi, hein, parce que peut-être qu'il y a, il y a des choses que je ne vois pas et qu'en réalité, tout est parfait. Moi, je veux... c'est ça que... à laquelle, la question à laquelle je veux avoir une réponse. Voilà. Donc, parce qu'effectivement, toi, tu dis, il y a des gens qui disent ça ne va pas, mais il y en a d'autres qui disent ça va. Il y en a d'autres qui... qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils viennent, ils disent « Vive l'Algérie !» comme si quelqu'un les... Enfin, on les agressait, je veux dire. Enfin, comme si... ouais. Voilà. Alors qu'en réalité, on veut tous le bien de ce pays, je veux dire, c'est pas... C'est ça, moi, qui... c'est cette phase... et quand on est là-bas, on dit ça, mais moi, j'ai d'autres retours. Moi, j'ai des retours comme quoi les gens, ils consomment, ils achètent, ils mangent, ils vont dans les restos, c'est-à-dire, ils payent des fortunes. Il y a des bars qui coûtent... ça coûte aussi cher qu'ici, en région parisienne. Donc, quelque part, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est géré? Là, je ne sais pas si tu as vu, par exemple... l'institutrice récemment qui a eu un poste. Ouais. C'est comment, parce qu'encore, on n'a pas parlé de ses postes, mais bon, il va falloir en parler un de ces jours ou tout à l'heure, à Oran. Et il y avait un parterre de... le Wali, il y avait des gens de... Enfin, les militaires, les gens de l'armée, enfin, il y avait... Et la femme qui faisait des you-you parce qu'elle a eu un poste, je veux dire. C'est pas... Voilà, donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens étaient si... est-ce qu'ils leur apportent quelque chose? C'est-à-dire que, grosso modo, c'est comme si les gens étaient si en retard, et maintenant, il y a quelqu'un qui leur apporte quelque chose. C'est-à-dire, l'actuel président, des you-you pour quand même un emploi. Sachant qu'on ne nous a pas montré les manifestants des écoles normales supérieures, parce que, eux, quand les enseignants ont été titularisés. Alors, les enseignants qui étaient en poste ont été titularisés. Les enseignants qui étaient avant eux n'ont pas été titularisés. Donc, ils ont fait une manifestation. Parce qu'ils ont, ils ont crié à l'injustice. Et les gens qui étaient à l'ISTN aussi, donc, enfin, l'Institut des formations des enseignants, aussi ont fait la manifestation parce qu'il n'y a plus de concours pour entrer, donc, pour enseigner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par l'ISTN, c'est ça, hein, on a le poste, enfin, on a un poste directement. Donc, ils se sont dit, on va nous prendre nos postes. Enfin, ils nous ont pris nos postes, puisque les gens ont été nommés. Donc, grosso modo, il y a des gens qui ont été nommés parce qu'ils sont sur ces postes. Des gens n'ont pas été nommés. Donc, ils font manifestation parce qu'ils étaient sur ces postes. Mais au bout d'un certain temps, on s'est dit, bon, on ne les prend plus. Et des gens qui vont être nouvellement diplômés, et à ce moment-là, c'est l'État qui leur donne... Alors, on leur a dit, non, ne vous inquiétez pas, vos postes sont déjà... ils vous attendent, voilà, grosso modo. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que, moi, je ne comprends pas et... Et si quelqu'un a une réponse, qu'on me dise ce qui se passe. Je dirais juste à ce niveau, déjà.
Bon, Mohamed vient d'arriver, là, donc bienvenue, là. Je sais pas si vous m'entendez, là. C'est bon?
Oui, très bien, très bien.
Voilà, donc on est en train d'évoquer cette situation un peu général, on va dire. Le but, c'est pour dire aux gens, à travers des exemples que vous citez là, pour dire aux gens qu'on est en train de remettre tout en cause. C'est tout ce qui était après, post-octobre 88, est en train de partir, petit à petit, de manière tout à fait... Alors, on a commencé à dire des choses, bien sûr. Bon, il faut donner ces exemples-là, je pense qu'il faut les dire, lesquels. Bon, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, hein, qui est quand même une organisation qui est là depuis très longtemps, depuis le début des années 90, parce que même avant, hein, ça a été réalisé depuis 1985 exactement, mais en 1985, un certain nombre de ses responsables ont été emprisonnés, mais est passé devant la Cour de sûreté de l'État. Mais cette Cour de sûreté de l'État leur a été fatale. A été fatale plutôt pour le pouvoir parce que c'était une sorte de tribune. Puisque ils étaient obligés après, les condamnations, ils étaient obligés de les, comment on appelle, de les réduire, et en même temps, c'est qu'au-delà, à partir de 87, il y a une sorte d'amnistie, entre guillemets, parce qu'on a amnisté pas mal de gens, et on a permis de manière un peu quasi légale à certains d'activer, quoi. On a rien dit. Et après, bon, il est arrivé octobre 88, mais à partir d'octobre 88, cette ligue-là a commencé à travailler à l'ANN, c'est-à-dire de manière légale, publiquement, et on a vu ça. Et elle a quand même, elle a une durée de vie jusqu'à ben elle a traversé toute cette période, les 20 ans de Bouteflika plus les années 90. Et là, on fait comme si de rien n'était. On a une plainte qui a été déposée par le ministère de l'Intérieur auprès de ce qu'on appelle de la justice. Et un tribunal a jugé hein, que cette plainte est recevable et que on doit dissoudre cette assemblée-là. C'est-à-dire que les gens n'étaient même pas convoqués, hein, les responsables, au moins à Rage, par exemple, à l'Assemblée d'Action Jeunesse, auparavant ont été convoqués. Au moins le RCD, etc., les partis du pôle démocratique, là, ont été plus ou moins avertis. Venez, mais cette fois-ci c'est direct. La même chose pour Radio M, ça a été aussi une espèce de comment dire, de une espèce de Radio M a été, il faut que je, Radio M a été une espèce de d'un travail à la hache, quoi. C'est-à-dire qu'on arrête le monsieur, on le ramène devant sa radio et on ferme et puis on verra. Hein, et en plus, et à la demande du collectif d'avocats, une date a été fixée au 18 janvier dernier pour statuer sur la demande des avocats, savoir son maintien en prison ou non. Résultat, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tenu une séance le 15 janvier en absence des avocats, pour entériner la décision de maintenir le Qadi Hassan en prison. Voilà, ça s'est passé comme ça. Au même moment, le site de Radio M et de Maghreb Émergent ont été brouillés. Hein, il faut avoir une espèce de VPN, là, je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un peut nous expliquer, pour pouvoir entendre ce qu'il pouvait dire, etc. Donc finalement, voilà un peu. Alors, et en plus, bientôt, Rage et le MDS, donc ils ont posé ce qu'on appelle, ils ont fait une requête auprès du Conseil de l'État. Je ne sais pas pourquoi on dit Conseil de l'État, c'est le Conseil d'État. Je ne sais pas qui c'est qui nous appelle, là. Ah bon. Oui, allô ? Vous êtes à l'antenne, là ?
Oui, Radio Galère, bonsoir. Voilà, c'est pour renseignement.
Oui ?
Oui, vous m'entendez ?
Vous êtes en direct à l'antenne, on ne donne pas de renseignement à l'antenne.
C'est Aziz ?
Oui.
C'est Bembella, tu vas bien ?
Ah, comment ? Oui, d'accord.
Oui, j'ai reconnu ta voix. Oui, il n'y a pas de souci. Non, savoir si le samedi, il y a Étienne, il fait une émission, là, je voulais le voir. Je voulais le voir parce que cette année, ça fait 50 ans qu'il y a eu les ratonnades à Marseille.
Oui, oui, oui.
Oui, parce que moi j'avais 12 ans, moi je me rappelle, j'ai vu des cadavres, hein, j'ai des histoires à raconter. Hein.
Exact, voilà. Oui.
Oui, parce oui, que il faudrait faire une émission sur ça. Il faudrait rendre hommage à une victime. Je signale qu'il y a eu une Française qui était victime, déchiquetée devant le consulat.
Oui.
Oh, okay. J'avais 12 ans. Hein.
Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème, il y aura une émission.
Même toi, tu peux la faire.
Bien entendu.
C'est l'Algérie.
On se recontexte parce qu'actuellement, on n'est pas dans ce cadre-là, parce qu'on est en train de parler justement oui. de ce qui se passe chez nous, là, actuellement.
Ah oui, ouais, oui, voilà. Oui, effectivement, oui. Excusez-moi, oui. J'ai brouillé l'antenne.
D'accord.
Okay. Chauffe, Aziz, j'essaierai on essaiera de se voir et on discutera de ça.
D'accord.
Porte-toi bien, Aziz.
Merci beaucoup.
Salam alaikum. Ciao.
Voilà, merci. Voilà, donc c'est M. Bembella qui nous appelle, attention, il n'a rien à voir avec le Bembella de l'époque, hein, donc c'est un Bembella de Constantine, hein, d'accord, c'est pas un Bembella de Mohamed Bembella, quoi. Alors, donc, bon, le fil, on le reprend. Donc, les exemples pour dire qu'on est en train de mettre en place les choses pour aplanir et qu'on n'entend plus parler de Hirak, etc. Parce que, bon, la conclusion que tirent les autorités, à savoir que toutes ces organisations RAGE, le MDS, les partis, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, etc., les syndicats, parce qu'on va en parler encore, les syndicats ont préparé en fait ce qu'on appelle l'Ardia. Ils ont déjà préparé les conditions de la révolte de ce qu'on appelle de pacifique de février 2019, quoi. Donc, il faut donc, la conclusion, c'est qu'il faut raser tout ça, y compris, eh ben, ou que ce soit sur le plan des médias, ou que ce soit sur le plan des libertés syndicales. Il faut rajouter quelque chose que les nouveaux statuts qui sont en train d'être mis en place par le ministère du Travail, c'est une véritable catastrophe, là. C'est-à-dire qu'un syndicat n'a pas le droit de parler de politique, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est parler de politique. Un syndicat n'a pas le droit de parler de politique, n'a pas le droit de se réunir avec des instances politiques. Un syndicat... parce qu'à chaque fois, on dit sous peine de dissolution. C'est comme si certains syndicats sont agréés actuellement, et pourtant, il y a beaucoup de syndicats qui ne sont pas encore agréés. Il y en a pas mal. Mais ils se sont imposés de fait dans les mobilisations depuis les années 2000, notamment dans la fonction publique, etc. Ils étaient obligés de compter sur ces syndicats, notamment ils ont eu l'intelligence des syndicats de se fédérer en une confédération des syndicats autonomes, etc. Donc il y a une sorte de masse. D'une masse qui est tombée sur ce syndicat à travers le texte là qui est en préparation, qui est un projet de loi qui va passer sous peu là à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas d'opposition dans cette Assemblée nationale pour remettre en cause ce qu'on appelle le projet présenté par le gouvernement. Donc finalement, la tondeuse à gazon, elle est là. Plus les arrestations, on n'en parle même pas, les arrestations, ça continue. Ça continue tout simplement. On continue d'arrêter à Constantine, on continue d'arrêter à Alger, on continue d'arrêter du côté de l'Ouest, on continue d'arrêter en Kabylie. Les histoires de l'ISTN aussi, les ISTN tombent sur beaucoup de monde actuellement, l'interdiction de sortie du territoire national. On est, le contexte est à ce niveau-là. Vous allez nous dire comme quoi certains nous disent vous êtes que dans le constat. On est obligé de faire ce constat parce que Saïd le disait, qu'il y a des gens qui te disent oh, qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Il ne se passe rien du tout. Il y a les stades, il y a le foot, il y a la Coupe d'Afrique, des jeunes locales, etc. Je ne sais pas c'est quoi comme Coupe d'Afrique là, qui se déroule actuellement. Il y a les jeux communs. Il y a d'autres jeux là qui sont en préparation, des jeux du sport, c'est bon le sport hein, à l'école, mais la manière dont on l'utilise, on est à ce point-là. Voilà. Alors, vous allez me dire qu'on est en train de redire des choses, mais il faut le redire, quoi. Voilà. Alors, moi.
Bonsoir, cher...
Est-ce que tu changes de micro ? Change de micro, mais le micro rouge. Voilà.
Oui, je voilà, disais que effectivement, les constats, bon, il faut les faire, mais c'est pas nous, on fait que les répéter, mais c'est pas nous qui les fabriquons. Alors, par rapport à ce que tu disais, Aziz, c'est que il faut savoir que tout ce processus-là, il y a tout ce que tu parles, c'est-à-dire les volontés d'habiller un peu juridiquement, de donner un sentiment d'un aperçu de l'égalité à des mesures coercitives vis-à-vis de des partis politiques. On a vu la situation du MDS, le RCD qui est menacé, et les syndicats, etc. En fait, il y a une volonté d'assécher un peu la situation politique, tout ce qui est l'exercice des libertés, de remettre en cause tout ce qui s'est construit depuis pratiquement les années 80. Donc voilà un peu ce que la situation qui fait que aujourd'hui on est dans une situation de dénivellement qui fait que elle est à la fois inquiétante parce que c'est toutes les branches de la société qui sont en train d'être coupées les unes après les autres. Donc il y a une volonté d'assécher un peu la pensée, un peu le climat politique et de remettre en cause tous les acquis qui ont coûté cher au peuple. Parce qu'il faut savoir que la Ligue des droits de l'homme qui a été créée, comme tu l'as rappelé, Aziz, c'est que c'est au prix de souffrance des gens, des arrestations, de l'arbitraire. À partir des années 85, des gens ont été traduits devant la Cour de sûreté de l'État pour création illégale d'une organisation, etc. Même chose pour les syndicats. Certains ont fait de la prison, ils ont souffert. Il y en a qui ont perdu la vie. Je pense à Ardouane Osman qui a perdu la vie, tout son combat au détriment de sa famille. Donc il s'est consacré exclusivement à la création du syndicat des libres des lycées d'Alger. Donc c'est à l'honneur de tous ces gens-là aujourd'hui. Et peut-être que c'est ça la nouvelle Algérie, c'est-à-dire qu'où il n'y a plus de syndicats, où il n'y a plus de partis, où il n'y a plus d'opposition, où il n'y a plus de Ligue des droits de l'homme. Voilà. Après, tu poses un constat amer quand tu dis, ça aide à rappeler qu'on a l'apparence que la population, d'une manière générale, a entériné ce fait. C'est dramatique, mais les gens finissent par admettre un certain nombre de situations. Les populations, d'une manière générale, ils arrivent à vivre avec des drames sociétaux. Rappelez-vous la guerre qui a duré 7 ans et demi. Les gens ont fini par se lever le matin, aller travailler, etc. C'est pas qu'ils oublient, mais on fait avec. Donc c'est un système qui est en train de fabriquer en puisant. Et il faut savoir que cette Algérie dont on nous parle aujourd'hui, c'est-à-dire c'est puisé un peu dans l'imaginaire de tous ces gens-là qui sont dans la continuité de ce qui s'est passé depuis 62. C'est-à-dire 62-65, c'est une période un peu de flottement, tout ça. 65, il faut se rappeler le coup d'État de Boumdine contre le résidu de l'égalité qui existait avec tous les reproches qu'on peut faire à Bembella. Et puis de 65 à 80, c'est vraiment le coup de massue. D'ailleurs, où les gens pouvaient être arrêtés, il ne faut pas aussi, parce que nous, les Algériens, on a un problème de mémoire. Pas oublier que, et je pense que le gouvernement actuel, il s'inspire de cette période, parce que ces gens-là ont été le produit, ils ne tombent pas du ciel, ils ont été le produit d'un processus historique qui s'est construit. Donc pour eux, ils sont nostalgiques de cette période, il ne faut pas oublier. Donc, où il y a un nivellement par le bas, où il n'y a plus de partis, où il n'y a plus de syndicats, etc. Et certains, dans leur imaginaire, ils confondent même ces syndicats, ces organisations de jeunes, de femmes, de syndicalistes, de partis politiques. Ils l'associent à l'anarchie, y compris dans une partie de la société. Quand on discute aujourd'hui, chacun de vous, avec des amis, tout ça, on a l'impression que les systèmes autoritaires deviennent des références. Les gens ils me disent, regardez, en Chine, regardez, mais je dis aux gens, t'as envie toi d'aller vivre en Chine, t'as envie d'aller vivre en Russie, c'est-à-dire les gens nous défendent des régimes, etc. Alors que toutes ces forces-là, ils ont émergé de la société. Moi, quand je me rappelle le travail qu'a fait une association comme RAGE, c'est extraordinaire, de mobilisation de la jeunesse. Tout ça, c'est fait au profit du pays, les organisations de femmes et tout ça. Donc, c'est un processus qui est lent, mais en même temps, comme tu le rappelais, Aziz, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent reprendre un petit peu la main sur ce qui a été concédé depuis les années 80. Donc, depuis les années 80, il y avait un semblant d'ouverture, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire on voulait sortir de cette opacité d'un régime autoritaire qui tenait la société. Et à l'époque, on avait aussi le poids des difficultés économiques, les FMI étaient derrière tout ça. Donc, ça a poussé un peu vers des réformes économiques, politiques, etc., qui ont abouti à octobre 88 avec son lot de destruction, de morts, de tortures, etc., qui ont permis justement cette éclosion de la jeunesse, des partis et tout ça. Mais il faut se rappeler aussi qu'au niveau des partis, on a tout fait pour pervertir les partis à l'époque. Quand on a agréé 65 partis, c'est pour donner une image nébuleuse de la démocratie, de dire c'est fawda, quoi, c'est pas... Donc, c'est-à-dire, il y a 10 personnes, ils ont quelques liens, ils font un congrès, on leur donne de l'argent, ils créent un parti. En fait, on a fabriqué plutôt des sigles que des partis. Parce que les partis, ça suppose un programme, une idéologie, des militants, etc. Ils n'avaient ni l'un ni l'autre, savez. On fabriquait des sigles. Et on avait quelque chose comme 60 ou 65 partis croupions et tout ça. Et donc on disait, voilà ce que c'est que la démocratie, c'est 60 partis, etc. Donc on donnait une idée pervertie un peu des principes démocratiques. Et donc, chemin faisant, donc aujourd'hui, quand les régimes totalitaires se trouvent isolés, coupés de la population, eh ben, la moindre manifestation de la société de manière autonome leur crée de l'inquiétude. Ça veut dire, même les pouvoirs autoritaires, quand ils ont une certaine assise, ils peuvent permettre un certain exercice de la société. Bouteflika, je ne pense pas qu'il soit plus démocratique que Tebboune. Hein? Pas du tout. Mais je pense que c'est parce que, tout simplement, il était persuadé d'avoir une assise de son système politique, social, etc. Il avait les leviers à la fois pétrolières, de la redistribution de la rente, etc. Donc, il se disait, si les gens font des caricatures tous les matins ou un petit article par-ci, par-là, ou une manif ou des choses comme ça, c'est pas ça qui va me faire bouger. Or, aujourd'hui, on n'est plus, il me semble, c'est un avis, il me semble qu'on n'est pas dans le même cas de figure, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une fragilité du régime, ils n'ont plus d'assises, ils n'ont plus de soutien de la population. Et ça, ils le savent. Donc, toute possibilité, si vous vous rendez compte, un État, un pays puissant qui a peur d'un artiste, qui a peur d'un poète, qui a peur d'une radio, qui a peur d'un petit journal. J'ai appris là en venant qu'on a arrêté quelqu'un qui avait fait des bandes dessinées, tout ça. Donc, c'est terrible d'en arriver là. Et donc, ça traduit la fragilité et d'un régime, c'est-à-dire que... voilà, et puis on menace les gens, donc on veut faire un nivellement. Aujourd'hui, les gens créent un climat de peur. Voilà, c'est ce qui se passe chez nous, c'est ce qui se passe en Égypte. Il ne faut pas oublier qu'en Égypte, il y a plus de 60 000 détenus politiques. Et des fois, pour des chefs d'accusation qui feraient rougir de honte un procureur de la République, c'est-à-dire absolument rien dans les dossiers. Mais voilà, ils préfèrent ne pas prendre de risques parce que pour ces régimes-là, quel risque ils prennent? Ils mettent un innocent en prison, ils passent 2 ans alors. Et donc, ils disaient même que ça peut servir à dissuader les gens. Donc, on est dans cette situation. Après, comment reconstruire? Parce que pour répondre à la personne qui disait, bon, c'est vrai qu'on répète sans arrêt des constats amers malheureusement. Mais aujourd'hui, nous, la société, on est interpellé. Qu'est-ce que nous pouvons faire compte tenu de l'environnement, de la situation, du poids politique? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au Chendero, ici ou là-bas, etc. Quelle est la marge de manœuvre? Sur quel levier agir? Qu'est-ce qui reste comme possibilité d'agir? Donc, et ce sont des questions, parce que ce sont des moments comme ceux-ci qui préparent l'éclosion de demain, parce que les gens pensent que 1987-1990, il y a une ouverture. C'est pas un bouton qu'on a pu. Ça veut dire que dans la société, ça boue dans la société. Ça veut dire qu'il y a eu le travail qu'on a eu en 90. Ça veut dire que les gens, ils avaient travaillé 20 ans, 15 ans avant, dans la clandestinité, dans des conditions extrêmement compliquées, dans la peur, dans l'angoisse, etc. Mais c'est ce travail souterrain qui a fait que En 85, il y a eu des élites, il y a eu des gens qui avaient pensé tout ça, mais ils n'émergent pas du néant. Hein. Voilà ce que je voulais dire.
Un complément, peut-être. J'ai pas tout à fait la même vision. Il y avait Fersaoui qui avait intervenu à la dernière émission de Qadi Hassan, donc Radio M, et qui avait dit comment le. C'est-à-dire que la vision du gouvernement, parce que le gouvernement, il a deux visions. Il a une vision à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire il a une vision à l'extérieur. Donc c'est l'image qu'il va donner. Quand on dit qu'il n'y a pas de parti politique, qu'il n'y a plus de structure, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de liberté de la presse, il y a tout ça en Algérie. Sauf que la presse est libre d'écrire ce que lui dicte le gouvernement. Mais justement, elle est libre de l'écrire. Parce qu'elle est libre aussi de ne pas l'écrire. C'est ça le. Donc, du coup, c'est libre de ne pas l'écrire, donc elle n'aura pas les subventions, et donc elle se retire. Moi, j'ai entendu des directeurs de publication dire que non, mais de toute façon, c'est bien, parce qu'on a l'information, enfin, il n'y aura pas de. Ils se plaignaient que les autres apportaient de la fausse information. C'est-à-dire que les États qui entourent l'Algérie financent éventuellement certains organismes. Aux organisations ou aux journaux, du style par exemple Radio 1, pour dire des mensonges sur l'Algérie. Donc les gens, le problème, qui n'ont jamais vu Radio 1, qui n'ont jamais écouté Radio 1, ont critiqué. Par exemple, moi j'ai vu plein de critiques concernant Hassan Qadi. Hassan Qadi, 3000 signatures, ce n'est pas normal. Ça veut dire que nous avons un problème au niveau du pays. Après, la deuxième chose que nous avons, les partis politiques, ils existent, mais à condition qu'ils rentrent dans le scénario du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un scénario, enfin, que je dis du gouvernement, c'est quelqu'un a prévu un scénario. Donc ces partis politiques, peut-être que, enfin, je veux dire, ils seront, grosso modo, je dis embauchés, parce qu'on ne peut plus parler d'élus, ils seront embauchés, ils seront au Sénat, ils seront au Parlement, ils seront un peu partout, ils auront des places ministérielles. Et après, ils finiront comme on finit d'autres, pour certains, à l'étranger, dans les consulats. Voilà. On parle de l'organisation de la DDH. Ouais. Il existe une organisation des droits de l'homme qui est liée au gouvernement. Elle existe, l'organisation. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'en réalité, il existe des coquilles, elles sont vides à l'intérieur, mais les coquilles existent. Donc, de l'extérieur, on voit bien ces coquilles. C'est-à-dire que demain. Le gouvernement peut te présenter ses coquilles. Elles sont vides. Et le problème qu'il y a, c'est que les gens qui sont à l'intérieur sont d'accord avec ce système. Je dis, moi, les patrons des publications m'ont impressionné, c'est-à-dire en parlant de l'information.
Mais ça, j'espère que tu n'es pas aussi naïf, parce que les directeurs de publications, ce sont des relais. Il ne faut pas oublier d'où nous venons. Dans le temps, qu'est-ce qu'ils nous disaient à l'époque de Boumdine ? Moi, je me rappelle très bien. Moi, je ne l'ai pas lu dans les livres, je me rappelle. C'est des situations que j'ai vécues. Ils te disent, nous, on n'interdit pas les organisations, à condition que tu sois à l'intérieur des organisations FLN. C'est-à-dire, ce qu'ils entendent par là, tu n'as pas le droit de créer une organisation autonome. Voilà le vrai problème. Après, il te dit, oui, il y a l'UNFA, l'Union Nationale des Femmes Algériennes, il y a l'UGTA, il y a l'UNGA, l'Union Nationale des Jeunes Algériennes, mais toutes sous l'égide du FLN. C'est ce qu'on a appelé les organisations de masse. Et après, ils te disent, voilà, nous, on a des organisations. La question, c'est que si tu dois faire une manifestation, aussi petite soit-il, tu prends tes documents et tu vas aller consulter le Mouhafad du FLN qui va te donner. Ce n'est pas ton président ou ton trésorier qui va te dire ça on peut faire ou ça on ne peut pas faire, etc. C'est le Mouhafad du FLN qui va te dire ça vous pouvez le faire, il faudrait voir. Si tu prononces un discours, il faut qu'il le voie. Si tu invites des gens, il faut qu'ils voient qui c'est. Donc si on appelle ça, je veux dire, quand on parle de la société civile, c'est la société civile qui s'exprime par elle-même. Elle n'est pas seulement la résultante de porte-parole. C'est-à-dire que les journaux dont tu parles, ce n'est pas le nombre de journaux qui fait la démocratie. Ce n'est pas le nombre de partis qui fait la démocratie. Ouadlouart, on est arrivé à 65 ou à 70 partis. Est-ce que pour autant, on avait plus de partis que la France et l'Allemagne réunis ? Ce n'est pas pour autant que nous avons un système démocratique. Le système démocratique suppose l'expression de la société civile sans contrainte. Et de toute façon, l'Algérie a ratifié les traités internationaux. Donc, s'ils veulent les lire, ils n'ont qu'à les lire. Ils parlent de l'expression de la société civile. Comment expliques-tu sinon ces différents directeurs de radio ? Ils sont combien ? Ils ont énormément de financement public et ils ont peur de Radio M, une petite radio qui a beaucoup moins de moyens qu'eux. Mais ils ne sont tranquilles que quand on l'aura fermé. Alors si c'est Radio M, elle ne dit que des mensonges et qu'elle raconte les vérités, ça ne devrait pas les déranger logiquement. Il va dire, moi, je ne voudrais pas qu'il en existe 3 ou 4 Radio M. Moi, ils ne me dérangent pas, ils peuvent parler, etc. Voilà, c'est ça le vérité. Le problème, c'est qu'eux, ils te disent, nous sommes détenteurs de la vérité. C'est ça le vrai problème. Ils te disent, nous, on est détenteurs de la vérité. C'est nous qui savons. Donc, tous les gens qui sortent du cadre officiel, ils te disent, soit ils sont manipulés de l'étranger, regarde comme par hasard, et ça, c'est une donnée internationale. C'est-à-dire que tu prends le régime chinois ou le régime de Poutine, le régime égyptien, turc, etc. Ils ont tous cette notion-là. Dès que quelque chose ne va pas dans le pays, c'est que c'est manipulé de l'étranger. Ça veut dire que déjà, ça participe du mépris de leur peuple. Parce que ça veut dire, ils te disent, notre peuple n'est pas capable de penser. C'est que c'est un étranger qui lui a dit. C'est-à-dire, il ne peut pas en penser de lui-même, il ne peut pas agir de lui-même. Déjà, c'est une forme de mépris. Si tu as un syndicat qui se lève pour dire Goren, on veut des droits, etc. Ah, il te dit non, c'est pas eux, ils sont manipulés. Ça, eux, ils sont pas capables de défendre leurs droits. Et déjà, il y a une forme de mépris. On dit, ah non, on a des infos comme quoi ils sont manipulés par tel groupe ou par tel pays ennemi, etc. Et souvent, ils désignent un ennemi interne. Et si ça suffit pas, ils te disent un ennemi extérieur. Et parfois, ils te disent, ils font collusion. Ils travaillent ensemble pour... Je connais l'Algérien qui veut détruire son pays. Ça veut dire que les nationalistes, que qui sont au gouvernement, et la presse, c'est ceux-là qui sont les autres gars, c'est des gens dont il faut se méfier. C'est-à-dire les 40 millions d'Algériens, c'est tous des gens dont il faut se méfier, peuvent être manipulés et tout ça. Donc ça, c'est des discours l'ancien. Tu prends la République islamique d'Iran, ils te disent, nous, on organise des élections démocratiques. Mais sauf que pour quelqu'un se présente aux élections, il faut qu'il ait l'aval du guide suprême. Il te dit, Wajib, le programme TAC, tu dois t'inspirer des résolutions de la République islamique, tu ne dois pas sortir du cadre que nous, on a tracé. Nous qui avons tracé ce cadre. Donc, tu n'as pas le droit de sortir. Et il voit, il va légiférer tout ça. En bas, s'il pense que tu ne poses pas un problème à la remise en cause du système, là, il peut t'autoriser. Il va te dire, nous, on a 3 ou 4 candidats aux élections présidentielles. Ça fait, le fait qu'il y ait 3 ou 4 candidats ne fait pas une élection présidentielle pluraliste. C'est la pluralité des programmes, la liberté de celui qui... En Égypte, quand Sissi a été élu, l'opposant, il a dit, moi j'ai voté pour Sissi. Lui-même, il a voté pour Sissi. L'opposant qui s'est présenté, Zama, un candidat fantoche pour dire, je ne suis pas tout seul, il y a quelqu'un qui a recueilli 0,0, etc. Donc comme ça, on fabrique des éléments de langage. Mais les gens en Algérie, je ne pense pas, parce que moi, je n'écoute pas les directeurs de journaux. Je suis désolé, mais ce sont des gens qui sont achetés par la manne publicitaire. Et quel journal aujourd'hui va tenir, qui soit capable de donner des chiffres? Quel journal il va tenir avec la vente ou là avec la... S'il n'y a pas la manne de l'ANEP, l'Agence nationale de publicité. Et on sait que c'est un moyen de rétorsion. C'est-à-dire le journal qui clive un peu, etc., on va lui enlever la pub, il disparaît de lui-même. C'est ça, donc le fait que... Après, il te donne l'illusion, il te dit en Algérie, je ne sais pas, il y a 5 ou 6 ou 10 journaux qui expriment, mais on a une diversité de journaux, mais la même ligne politique. Donc, il écrit la première page, l'autre il va la mettre sur la deuxième, l'autre il va la mettre sur la dernière, et on ne fait pas une pluralité d'idées avec ça, c'est tout, c'est ce que je veux dire.
Oui, pardon. C'était juste pour... Parce que peut-être je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, par exemple, tu m'as parlé des gens qui ne croient pas, qui réfléchissent et tout. Moi, par exemple, je veux aujourd'hui qu'on m'explique pourquoi Qadi Hassan,
n'a récolté que 3000 signatures. Pourquoi ces gens qui passent sans arrêt à la télé, on parle d'eux à longueur de journée? Je veux dire qu'ils sont devenus des références. C'est-à-dire que, grosso modo, ce gouvernement, il s'est arrangé pour avoir des interlocuteurs. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il choisit ses interlocuteurs. Et c'est ces interlocuteurs qui communiquent avec la population. Donc, cette population, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le Qadi Hassan, a eu plein de critiques de la part de gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais lu. D'accord ? Parce que, grosso modo, certains l'ont dit, donc les gens qui touchent de l'argent, donc une audience, je parle de ces directeurs de publication, le répètent à longueur de journée. Parmi ces gens, il y a des journalistes qui étaient considérés, il n'y a pas longtemps, comme des gens, enfin, grosso modo, libres, qui avaient la parole libre, et qui sont rentrés dans le rang. Voilà. Donc pourquoi Qadi Hassan a 3000 signatures? C'est ma question.
Enfin, je ne voudrais pas que... Même mon avis, pour moi, moi, je ne suis pas surpris, hein, parce que, je ne sais pas, c'est, moi, j'ai connu l'époque qui, étrangement, elle ressemble à celle-là. Hein, et donc, moi, je ne pense pas que le gouvernement actuel, il a innové en matière de répression, là, en matière de soumettre la presse ou là, la société civile. Je pense qu'on a puisé dans ce qu'il y avait avant. Il s'est dit, voilà, ça a fonctionné pendant une époque, c'est-à-dire globalement de 65 à 82, et pourquoi pas le remettre sur rail, etc. Donc dire, voilà. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est que dans les hautes sphères, les gens qu'on avait eu écoutés lors de conférences, etc., moi je me rappelle des gens qui étaient venus ici à Marseille, nous animer des conférences, et à l'époque, il y avait quand même une certaine parole libre. Ils nous expliquaient que c'est pas fait pour nous, la démocratie. Ils nous expliquaient, alors qu'à l'époque, ils n'étaient pas sous pression. Vraiment, je le reconnais, ils étaient persuadés que c'est pas des schémas qui sont faits pour nous, compte tenu de notre histoire, de notre culture, de notre état d'esprit, tout ça. Et déjà pour moi, et à l'époque, je me rappelle, il y avait une conférence ici avec un certain nombre de penseurs, etc. Il y avait même parmi eux quelques intellectuels français qui rajoutaient de l'eau à leur moulin. C'est-à-dire, mais je dis, vous, c'est quand même grave, parce que ces gens-là, ils disaient, nous, on aime l'Algérie, etc. Et je leur disais, moi, j'ai pris la parole, j'ai dit, mais vous, j'ai l'impression que vous aimez l'Algérie, mais vous n'aimez pas les Algériens. Et je ne sais pas de quelle Algérie vous parlez, mais en tout cas, vous ne parlez pas de mon Algérie à moi. Parce que les Algériens comme moi, ce sont des gens, des citoyens à part entière. Pourquoi eux, ils n'ouvrent pas droit aux principes démocratiques? Et malheureusement, dans le pays, les journalistes, si tu les prends en dehors des sphères officielles et tu prends un café avec lui, là, il va te dire le fond de sa pensée. Soit il va te dire, moi, je n'y crois pas. Donc, il exerce le métier de journaliste comme celui qui exerce un métier de bureaucrate. Oh, il gagne sa vie, voilà, il te dit s'il est prêt à payer. Voilà. Si j'ouvre ma gueule, non seulement j'aurai plus ça, mais je suis obligé d'aller chercher un boulot, voire même de prendre des risques. Voilà. Comme ils n'ont pas envie de prendre des risques. Il y a ça. Il y a un deuxième aspect, c'est que moi je pense que les gens sont profondément pessimistes. C'est-à-dire, ils pensent que c'est reparti pour longtemps. Voilà. Et donc, il y a une forme de défaitisme, de ressentiment général. Peut-être que c'est une ambiance comme ça, mais que je partage pas, parce que sinon, on ne serait pas là. Ce n'est même pas la peine. Mais je pense que la peur, donc il y a un moment où... Mais bon, après, dans l'histoire, on a vu des exemples similaires. Les gens qui pensaient avoir la paix, etc., quand il y a eu le soulèvement en 1945, on a tué des milliers de gens. On a utilisé les canons, on a utilisé la marine. Le général Duval, c'est lui-même qui a organisé la répression. C'est quand même extraordinaire. C'est lui qui a organisé la répression. Mais quand il avait réprimé la population, donc ils avaient un semblant de calme. Parce que les gens ont vu, on parle les chiffres varient, il y en a qui parlent de 45 000 morts, les Américains parlent de 30 000 morts, mais c'est énorme, même 20 000, même 10 000 morts, c'est énorme, parce que tout simplement, les gens sont sortis dans la rue pour dire on veut la liberté, et on leur tire dessus, on les abat. Et Duval, qui a organisé la répression, avait dit aux politiques français, tout général qu'il était, tu te rends compte, il leur a dit, on a fait la répression, mais ce n'est pas la solution. Si on ne trouve pas des solutions, je vous donne 10 ans, et les gens vont se soulever. Il a dit, je vous donne 10 ans. Il a dit, avec tout ça, les gens vont encore se soulever. Oui, il a dit, oui. Là, on en a tué des milliers. Mais si on ne trouve pas, on a une période de calme, parce que les gens, il faut qu'ils pensent leurs blessures. Ils enterrent leurs morts, ils pensent leurs blessures. Il a dit, mais je vous donne 10 ans. Si vous ne trouvez pas des solutions politiques, on est reparti pour une révolution. Et bien là, l'histoire lui a donné raison. 54, c'est 10 ans après.
Et le 11 décembre 1960, tu sais que les grands chefs de la révolution algérienne, ils sont morts entre 55 à 60, tous. Amer Roch, Larbi Ben Mehdi, les GPRA, ils sont partis à l'étranger. Il n'y avait plus personne, aucun leader. Et d'ailleurs, même De Gaulle a prévu une tournée en Algérie parce que ça y est, il s'est dit, ça y est, l'Algérie va rester française. Et il a commencé à faire un peu sa campagne électorale. Hein. Donc, il tournait un peu partout. Ils ont été surpris le 11 décembre 1960 par des manifestations en Algérie. À Alger, ça a commencé à la capitale. Après, ça s'est un peu propagé. Et qui aurait dit que deux années après, une année et demie après, il y aurait les accords d'Évian et deux années après, il y aurait l'indépendance. Donc c'est pour ça que ceux qui sont sceptiques et qui se disent ça y est, c'est reparti pour un certain temps, moi je n'y crois pas. Parce que les raisons qui ont poussé les Algériens à sortir le 22 février 2019 existent toujours, bien pire, parce que se sont ajoutées à ces raisons. Il y a des problèmes économiques très aigus. Moi je vous dis, hein, j'ai eu des retours, il y a des familles entières, je parle d'Alger, je ne parle même pas de l'intérieur du pays où ça doit être encore plus pire. Alger, il y a des familles entières qui n'arrivent plus à manger. J'ai de la famille là-bas, ils sont venus c'est des gens qu'on connaît bien, donc c'est des gens de confiance. Je leur dis, s'il vous plaît, donnez-nous, on n'a plus d'argent. Il y a des travailleurs qui travaillent sans être payés, il y a les licenciements là, qui sont prévus dans son Elgaz. C'est inimaginable ça. En plus des libertés. Voilà. Et là, quand vous parliez, je suis en train de lire un excellent livre qui s'appelle « La démocrature ». C'est la démocratie truquée et la dictature camouflée. Et je vous jure que tout ce qui se passe actuellement en Algérie, il se retrouve pratiquement dans tous les pays africains, notamment en Guinée équatoriale, où le monsieur, là, l'écrivain, il a fait... Pratiquement, donc, il a travaillé plusieurs années dans ce pays. Et c'est les mêmes symptômes. Il y a une sorte de démocratie, de façade que vous êtes en train de décrire, mais qui cache derrière une dictature féroce avec le népotisme, la corruption, le clientélisme, le régionalisme, tous les maux dont souffre actuellement l'Algérie. Voilà. Et je vous jure, moi, je ne suis pas très optimiste. Hein. Je crains qu'il y aurait une autre révolution, mais pas aussi pacifique que celle du 22 février 2019. Parce que là, il y a des problèmes sociaux qui rentrent en jeu. Il y a des familles entières qui n'ont plus... Je ne parle même pas des familles des prisonniers. Hein. Vous savez, les prisonniers, les 300 qui sont en prison, ils ont tous été licenciés de leur boulot respectif. Hein, le professeur là, de l'université de Béjaïa qui a été... mis à la porte, licencié parce qu'il a osé critiquer le fonctionnement de l'université. Vous vous rendez compte où on en est. Un professeur qui a des... La professeure là, de Annaba, le docteur d'État qu'on a retrouvé morte, qui est devenue SDF, qui a fait ses études à la Sorbonne, qui était professeur, qui a des publications, ils l'ont retrouvé. Le Wali est en train de... Parce que heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui critiquent et qui parlent. Et il essaye de justifier le fait qu'elle a fait une dépression, qu'elle a un appartement, qu'elle vivait dehors parce qu'elle a perdu son enfant. Enfin, il a raconté un certain nombre de choses. Mais je vous jure que la situation en Algérie, elle est explosive. Et moi, j'ai peur. Moi, honnêtement, j'ai peur. Parce que même si on fait partie de l'opposition, je n'aime pas que ce pays se retrouve dans le chaos comme ça a été fait précédemment. Voilà.
Concernant juste la Madame Fella
C'était Trabelsi. C'est pas Trabelsi, non, c'était
Borsali.
Borsali, voilà. Ouais. On a fait la Borsali.
Borsali.
Voilà. Le Wali s'est basé sur quelqu'un qui a fait toute une recherche et tout, et qui